Écho des terres.
Chaque dernier lundi du mois, l'émission engagée qui cultive les initiatives des campagnes angevines.
Bienvenue dans Écho des terres, l'émission qui fait résonner les initiatives du monde rural, là où la solidarité et l'innovation prennent racine. Aujourd'hui, on s'intéresse à une association qui bouscule les idées reçues et répond à des enjeux brûlants, l'accueil de personnes migrantes au milieu rural. Son nom ? ACAT. Derrière ces deux lettres, il y a un projet audacieux, relier l'agriculture, l'artisanat et l'accompagnement humain pour transformer nos campagnes en terres d'accueil. Dans cette émission, on va vous emmener au cœur de leur combat, écouter les voix de celles et ceux qui agissent et comprendre pourquoi ce type de projet est aujourd'hui indispensable. Car si nos campagnes sont des lieux de vie, elles sont aussi des lieux d'enjeux. Alors restez avec nous et ouvrez grand vos oreilles.
Écho des terres. Sur Radio Campus Angers, les bonnes ondes pour tout le monde.
Nous avons une invitée exceptionnelle pour parler de l'association A4, Élodie, paysanne engagée et membre active de l'association qui travaille sans relâche pour l'accueil et l'accompagnement des personnes en difficulté. Bonjour Élodie, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va.
Dans notre fenêtre culturelle, nous aurons Den Chamani, un artiste aux multiples talents, graphiste, peintre, illustrateur. Den, merci d'être parmi nous pour nous faire découvrir ton univers. Tu vas bien ?
Ça va, merci.
Et un énorme merci à Sid à la régie, le maestro des ondes qui rend cette émission encore plus cool. Et coucou à Matou aussi, bah oui quand même.
Oui, salut Laura et bonne année.
Oh, bonne année ma biche.
Aujourd'hui, dans Écho des terres, nous mettons en lumière une association inspirante, ACAT, à la croisée des luttes pour l'immigration, l'antiracisme, la paysannerie et l'écologie. Cette initiative incarne des valeurs fortes de solidarité et d'accueil. Nous allons découvrir ses missions, ses défis et la manière dont elle transforme le quotidien de celles et ceux qui l'accompagnent. Pour commencer, on va te poser les questions de base. Peux-tu nous expliquer ce que c'est l'association ACAT et quelles sont ses missions ?
Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais dire que normalement, nous devrions être deux à cette émission.
Oui, c'est vrai.
Et c'est vraiment très important, puisque normalement, on se déplace toujours entre personnes soutien et, disons, personnes premières concernées, quoi. Et donc, il se trouve que Abdourahmane, qui devait être ici aujourd'hui, n'a pas pu venir pour des raisons professionnelles. Voilà, il avait un petit contrat et c'était ce qui primait. Donc, je me retrouve toute seule à présenter l'asso, mais normalement, on est toujours deux. Au moins.
C'est bien de le préciser.
Donc l'asso A4, c'est 4A pour accueil en agriculture, enfin asso d'accueil en agriculture et artisanat. Et donc cette association, elle a pour vocation de faire du lien entre la campagne et la ville, de aussi tisser des liens entre des gens qui parfois viennent de milieux ruraux. Et nous, A4, on aime bien dire que ceux qui ont traversé la mer connaissent la terre.
C'est la phrase phare de l'association.
C'est un peu une phrase d'accroche, mais on voit que parfois le rêve d'Europe, il ne s'accroche pas à des rêves de paysannerie, évidemment. Parfois, il n'y a pas de rêve d'Europe, il y a malheureusement une contrainte à l'exil très forte. Mais en tout cas, il y a une arrivée ici qui fait que... confronté à un monde très très difficile et au contexte politique qu'on connaît aujourd'hui, rencontrer des gens qui ont une volonté d'accueil, ça relance aussi des vocations parfois. Et que voilà, du coup les envies d'agriculture, elles naissent aussi des rencontres avec un réseau, avec des gens. Pardon. Et donc cette asso, elle a pris forme d'abord par des rencontres qui ont eu lieu entre des paysans, paysannes et des personnes exilées, premières concernées, on dit ça un peu comme ça. Et c'était des rencontres en 2021, donc c'est une asso qui est quand même assez récente, qui ont eu lieu à Notre-Dame-des-Landes. Et suite à ces rencontres, il y a eu l'idée de se structurer, mais aussi de mener des enquêtes. Et ça, c'est quand même un peu à la base du travail d'A4. C'est d'aller sur le terrain, créer des rencontres, et enquêter sur ce que sont les conditions de travail des gens qui sont, qui sont parfois employés dans l'agriculture, mais en fait qui sont exploités. Et du coup, voilà, il y a une grosse partie du travail qui a commencé comme ça, avec différentes enquêtes voilà, qui ont mené dans des territoires différents, où parfois se sont implantés des groupes soutien, des groupes locaux. Enfin, aujourd'hui, on appelle ça des groupes locaux, puisque disons que la différence entre un groupe soutien, un groupe où il y a des gens qui sont prêts à accueillir, qui sont en tout cas parfois prêts à embaucher aussi, et un groupe local, ce que nous on nomme un groupe local, c'est que dans un groupe local, il y a des gens qui sont directement impliqués, des personnes qui ont un parcours migratoire et qui sont au cœur de l'association, quoi. Et pour nous, en fait, cet enjeu-là d'avoir des personnes qui soient directement impliquées dans l'assaut, c'est une façon aussi de jouer les rapports de charité qui forcément, en fait, elles ne conditionnent pas nos rapports, mais elles les teintent. On vient d'un monde où on est dans un rapport accueillant-accueilli qui est vraiment structuré par une façon de voir l'accueil qui est celle de la charité. Et du coup, sortir de ces schémas-là, de ces modes de fonctionnement-là, c'est assez compliqué. Et on pense que ça passe par le fait que ce soit les personnes exilées qui prennent en charge les choses au sein des assos, au sein des groupes, que la prise de décision soit la plus horizontale possible. Voilà. Que ça fonctionne. Et c'est pas toujours simple, la question de l'horizontalité. Peut-être qu'on en reparlera.
Et une association comme A4, c'est aussi une grande aventure collective. Combien de personnes êtes-vous dans l'association? Combien de personnes êtes-vous sont impliquées, en fait?
Alors, beaucoup, puisque si on compte les paysans, paysannes qui accueillent, les artisans, artisanes qui ont pu accueillir, les endroits où il y a pu avoir des formations, mais aussi les personnes qu'on accueille, on va dire qu'il y a une centaine de personnes qui ont été accompagnées. Mm-hmm. Le nombre de personnes dans l'ASSO, je ne peux pas te répondre.
Ah ouais. Okay. Et du coup, concrètement, comment l'association s'organise-t-elle sur le terrain et où est-ce qu'on peut vous trouver, en fait? Sur quel territoire?
Alors, comme cette initiative, elle a été portée d'abord des gens qui étaient en Île-de-France. Il y a un groupe Île-de-France qui est assez fort, et historiquement, c'est là où les choses ont pris forme. Et donc, il y a un groupe local qui se crée là-bas, avec aussi une volonté de s'ancrer dans le territoire, de réussir à obtenir des terres. Et en Île-de-France, on sait à quel point c'est très, très compliqué. Mm-hmm. C'est compliqué partout, mais particulièrement là-bas. Et donc, il y a des essais agronomiques qui ont été aussi mis en place, voilà. Des semis de millet, voilà. Et il y a un groupe local qui se trouve à Lannion, dans les Côtes d'Armor, okay. Où on a des serres qui ont été mises à disposition de l'association, dans lesquelles il y a des essais aussi de culture, de piment, de cacahuètes, de gingembre, voilà, qui ont été mis en place au prix d'un effort dingue, puisque là, c'est des terres artificialisées. Du coup, il a fallu créer des bacs de culture, ramener de la terre. Enfin, c'est un peu une aventure, voilà. Moi, en tant que paysanne, ça me fait un peu mal au cœur de me dire que voilà, on n'est pas en capacité aussi de trouver des terres cultivables. Après, cet endroit, c'est un endroit aussi où on y fait autre chose. Les serres, elles permettent de faire pas mal de rencontres, d'animations. Enfin, c'est un lieu qui vit avec plein d'autres événements. Et on n'y fait pas que de l'agriculture. Et enfin, il y a un groupe très important à Grenoble, avec une super chouette dynamique. Il y a une quarantaine de personnes qui se réunissent, une soixantaine dans ce groupe-là, mais une quarantaine en fait qui participent aux réunions. Et évidemment, ça tourne, il n'y a pas toujours tout le monde. Mais donc, c'est quand même un groupe assez fort, là, avec quasiment que des personnes concernées, quoi. Okay. Et du coup, il y a une auto-organisation qui est assez incroyable. Pour l'instant, je ne peux pas dire qu'il y a une homogénéisation des groupes à faire, mais il y a peut-être des manières de fonctionner un peu plus... on essaie d'harmoniser les choses entre les différents groupes. Pour l'instant, chacun fonctionne avec des pratiques un peu qui lui appartiennent. Mm-hmm. Et aussi, c'est ça la richesse de cet asso. Mais oui, à Grenoble, il y a un fonctionnement où, par exemple, il y a un tirage au sort qui est opéré parmi les gens qui pourraient être intéressés, s'il y a de la formation, s'il y a du stage ou une embauche possible, à partir du moment où il y a des compétences qui sont partagées entre différentes personnes qui pourraient être intéressées par ce poste, eh ben, du coup, il y a un tirage au sort qui s'opère. Et du coup, bah, parmi les gens qui font du maraîchage, par exemple, bah, voilà, on tire au sort.
Là, ce que tu dis, justement, c'est que c'est une asso nationale qui a plusieurs antennes.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que vous mutualisez un peu les façons de faire
Oui, alors on avait une collégiale, là, un rendez-vous où les membres de l'asso et les groupes locaux se sont retrouvés. Donc on a été 2 jours ensemble dans le Limousin. On y est retourné parce que le Limousin, c'est une terre où déjà il y avait eu un voyage en quête. Et d'ailleurs, il y a un film qui a été tourné là-bas il y a 3 ans, qui s'appelle « D'égal à égal », qu'on peut retrouver sur le site de l'asso. Il faut aller à la rubrique « Médias » et là, vous avez le film en accès libre. Et ça vaut le coup de voir aussi comment a émergé le projet. Et aussi, là, je trouve que ça vient aussi un peu en complément de ce qui peut être dit aujourd'hui, de revoir un peu l'historique. Donc voilà, donc on était dans le Limousin pour essayer de voir comment justement on se structure, comment on trouve des articulations communes. Mais en tout cas, ce qui est un peu commun, dans les actions qui sont menées jusqu'à présent, c'est une grosse appétence pour la cuisine, pour la boulange. On voit que ça se structure quand même pas mal autour de ça, évidemment autour de l'agriculture, mais aussi en artisanat, de la maçonnerie, de la menuiserie, voilà. C'est les compétences de la soudure. Donc on a un four à pain à Lannion qui a été fabriqué par les membres de l'asso. Donc voilà, ça c'est des compétences qui sont au sein de l'association. Et donc ça peut être des gens de Grenoble qui viennent ou de Paris pour en l'occurrence là c'est Habib qui est descendu à Lannion pour faire cette formation à la fabrication d'un four à pain.
Vous faites un travail colossal, mais il faut aussi des moyens. Qu'est-ce que vous avez comme soutien financièrement ?
Alors jusqu'ici, il y a un certain nombre de fondations qui ont permis à l'asso de se développer. On a 5 salariés aujourd'hui. L'idée, c'est aussi de permettre aux membres de l'asso de profiter d'outils de production qui leur permettraient d'avoir plus d'autonomie et donc de nous permettre de trouver des financements propres, en fait, de partir de ces... On sait bien, en fait, que l'argent qui vient de fondations, qui vient de subventions... Elle est toujours très... elle n'est pas volatile, mais elle est précaire, quoi. On ne sait jamais si elle va se maintenir. Et donc l'idée, c'est de profiter là du fait qu'il y ait quand même eu un élan et que du coup, il y a un certain nombre de sous qui ont été récoltés pour peut-être s'acheter des fermes, avoir des lieux et des outils. Enfin, le four à pain en fait partie, mais il pourrait y avoir... là prochainement, peut-être qu'il y aura un resto à Montreuil, un resto à 4. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et donc, il faut acheter quand même un peu de matériel. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi, parce qu'on n'a pas à parler de régularisation, mais quand même l'enjeu premier de l'accueil et de la question du travail, c'est évidemment la question de la régularisation. Et la régularisation par le travail, aujourd'hui, on sait à quel point elle est très, très compliquée. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est de réussir à avoir des fiches de paye, des contrats qui permettent de
pérenniser un petit peu.
Ouais, c'est ça, la présence.
Du coup, ACAT, c'est plus qu'une simple association, c'est aussi un combat politique et humain. Quels sont, selon vous, les enjeux derrière l'accès des migrants à la paysannerie ?
Alors déjà, c'est un enjeu... à mon sens et aussi au sens de pas mal de membres d'ACAT qui dépassent la question de l'accès des exilés eux-mêmes. C'est un enjeu pour tout le monde. Aujourd'hui, on est dans une société qui a été complètement vidée de ses paysans. Et donc, on est dans une société avec des paysans sans terre, en fait. Mmh. Des gens qui peut-être même ne savent pas encore qu'ils vont revenir à la terre. Mais en tout cas, on n'a plus d'accès à la terre et à la question de la subsistance même, hein. Donc ça dépasse les enjeux des personnes qui arrivent de l'extérieur. Et du coup, ça ne nous facilite pas la tâche, puisqu'en fait, on est sur une problématique globale d'accès à la terre. Et on a peut-être entendu parler des problématiques ici, localement, avec Denay, par exemple. Et le fait que des jeunes qui voulaient accéder à une ferme se sont vus couper l'herbe sous le pied. Et donc, quand nous, on cherche à faire en sorte que des personnes qui ont un parcours migratoire accèdent à une ferme, à des terres, on voit à quel point c'est déjà compliqué pour des gens qui ont des papiers, donc sans papiers, d'autant plus. Donc c'est pour ça que je fais un peu cette parenthèse, parce que, en fait, il y a des gens parmi les fondateurs là, d'A4 qui disent A4, c'est pour tout le monde. C'est cette volonté-là de dire on veut avoir accès à la terre et c'est pour tout le monde, quoi. Et donc, c'est aussi ça qui permet, à terme, je pense, de travailler ensemble. Enfin, quand on parle d'égal à égal, là, c'est un terme qui est parfois très compliqué à comprendre, parce que, en fait, les oppressions systémiques, on les annule pas d'un claquement de doigts. Le racisme intégré, il est là. Mais du coup, la question, c'est comment on arrive, non pas à travailler pour, enfin, ni à travailler avec, mais à travailler ensemble, quoi. Et ça, du coup, c'est aussi en ayant des problématiques communes et en essayant de les résoudre ensemble que ça peut fonctionner.
Bien sûr.
Je fais écho à ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, on sait que les idées qui montent un peu dans les campagnes, il y a quand même les idées de repli, d'exclusion, que ça gagne du terrain. On le voit au résultat des législatives, des dernières législatives de 2024. Comment vous arrivez à défendre des valeurs de solidarité et d'accueil dans ce contexte-là ?
C'est une très bonne question. C'est pas évident. Pour l'instant, on est un peu en dehors des radars. L'accueil, il se fait d'une manière un peu... on n'est pas trop repéré, en fait, dans le territoire. On peut parler de nous, mais... en fait, pour l'instant, ça ne choque personne de voir une personne exilée dans un champ. C'est ça, on est même de loin... On voit qu'en fait, l'agriculture, elle tourne sur une main-d'œuvre précarisée et la plupart du temps sans papier. Donc là, la différence, c'est que nous, on essaie de faire en sorte que les gens soient accueillis sur des fermes où il y a une vraie politique d'accueil, il y a une vraie question de l'hospitalité qui est posée, il y a même des protocoles qui sont posés. La question de la nourriture, qu'est-ce qu'on va manger ensemble ? Enfin, c'est des questions qui ne doivent pas rester taboues. Et du coup, il y a vraiment cette question de l'hospitalité qui est là. Et on essaie de faire en sorte que aussi les personnes qui soient accueillies soient investies dans l'assaut aussi en tant qu'enquêteurs et enquêtrices. C'est-à-dire que quand on va sur une ferme et qu'on y est accueilli, ce qu'on attend aussi, c'est d'avoir des retours pour savoir si potentiellement on renvoie des gens là-bas. Et ça, c'est une façon aussi de dire que on ne vient pas juste... être placé là parce que c'est gentil, on vient nous trouver du travail, mais de dire qu'on est actif dans l'association au point qu'on est en capacité de faire des retours et du coup d'être un peu de porter un regard sur quel type d'accueil on a eu et est-ce que c'est ok, est-ce que c'est un lieu qui peut être validé comme une ferme accueillante de A4, quoi.
Bien sûr.
Et donc ça, c'est, je sais pas si je réponds à ta question, elle est quand même hyper complexe. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, il y a eu des attaques des serres de Lannion, par exemple. On pourrait revenir là-dessus, dans l'entre-deux tours. Il y a eu des tags racistes qui ont été... il y a eu une intrusion dans les serres. Donc c'est cette question, tu vois, quand on a un lieu et qu'on est identifié, et que du coup, il y a des gens qui commencent à nous cerner... la question se pose et ça sera vraiment plus compliqué. J'ai pas de réponse à ça, à part qu'on s'organise, que évidemment à Lannion plus personne n'y va seul et que voilà. Ça implique ça aussi. Et après, les gens de Lannion, pour en avoir rediscuté il y a pas si longtemps, là, certains d'entre eux me disaient qu'ils avaient pas peur parce qu'ils considéraient qu'ils étaient venus la nuit et que c'était des lâches, quoi. Mais c'est. Voilà.
Ça reste quand même de l'intimidation.
Ça reste de l'intimidation. Là, ce que je dis là, c'est que c'est pas pour minimiser ce qui s'est passé du tout, quoi. Mais ça demande à ce qu'on s'organise collectivement et qu'on le pense aussi ensemble. Qu'est-ce qu'on fait de ces attaques ? C'est pas que des mots, quoi.
Bien sûr. Face à des défis aussi importants, qu'il s'agisse de la montée des intolérances ou des difficultés économiques, travailler en collectif devient essentiel. Est-ce que A4 collabore avec d'autres associations pour créer une force collective ?
Alors oui, forcément, parce qu'on n'a pas toutes les compétences. Déjà, ça implique d'avoir des compétences juridiques. Donc, qu'on partage avec... on n'a pas d'avocat, par exemple, ou d'avocat dédié au sein d'A4. Par contre, il y a un tas de gens qui viennent nous apporter leur soutien et qui constituent ce qu'on appelle, nous, le groupe de travail juridique, sur les questions juridiques. Mais après, c'est évidemment tout le maillage qui est déjà existant. Et l'objectif d'A4, c'est pas de remplacer ce qui existe. Et heureusement que c'est là, parce qu'en fait, le chantier, il est déjà suffisamment énorme. Donc, oui, évidemment, des cours pour se perfectionner sur les questions de lecture et d'écriture du français, par exemple. C'est pas nous qui allons faire ça au sein d'A4, et du coup, enfin voilà. Donc, il y a tout un travail qui se fait avec le maillage déjà présent, et des gens qui, heureusement, parfois ont du logement grâce à une autre asso. Enfin, voilà, je vais pas commencer à toutes les citer, mais. L'idée, c'est de dire que, en fait, A4 ne va pas remplacer, le maillage local qui est hyper important, sans lequel, en fait, il n'y a rien de possible. Par contre, en Île-de-France et à Grenoble, il y a de l'accueil pour les questions juridiques. Maintenant, il y en a des permanences.
Okay.
Donc là, ça tourne. Et voilà. Donc sur ces questions-là, par exemple, c'est des compétences à la fois partagées avec d'autres assos et à la fois qu'on a un peu en interne. Et le lien qui se fait avec les paysans et paysannes, il s'entretient. Ça dépend des territoires, mais il y a quand même Terre de Liens qui à l'origine était qui est un peu concerné par ces histoires-là et qui met un peu en question. Au service de l'asso, son réseau. C'est un maillage qui se fait aussi avec la Confédération paysanne. Sur des questions agricoles, on est sur ces choses-là. Et ce qu'on essaie de mettre en place, c'est aussi de la formation qui pourrait passer par des réseaux au sein de nos réseaux paysans. Peut-être qu'on pourrait essayer, ça c'est en discussion, mais d'ouvrir des places. Nous, on a un fonds de formation qui s'appelle Vivea, quand on est paysan et paysanne. Quand la formation, elle est validée, en fait, d'essayer de trouver quelques places.
Oui.
Quand on l'a financée, hop, on rajoute une ou deux personnes. Ça serait ça, l'idée.
C'est un gros projet, ça ne cesse d'évoluer. Quels sont les projets en cours ou à venir pour A4 ?
Alors, il y a plein de projets.
Tu parlais du resto.
Ouais, il est sur le feu, celui-là. La carte, elle est en train de se constituer. Et du coup, on fait aussi appel à nos réseaux de paysans et paysannes pour approvisionner le restaurant. Donc, potentiellement, il y aura du vin d'Anjou dans ce restaurant.
Ça, du circuit court, quoi, en plus.
Il y a cette idée-là de favoriser le circuit court. En tout cas, on ne va pas aller chercher les légumes ici, mais... Voilà, on pourra venir chercher quelques vins parce qu'on a cette chance-là, quoi, d'avoir un super vin. Et du coup, les autres projets, c'est des projets de lieux. Principalement, on travaille sur ces questions-là, là, d'essayer d'acquérir des lieux. Alors, il y a autour de Grenoble des initiatives, là, et des propositions de récupérer des lieux... Donc, c'est très chouette. Ici, en Anjou, il y a un projet de mise à disposition de terres et d'un hébergement sur ma ferme, en l'occurrence, où potentiellement, il y aurait possibilité de se tester, de voir si l'activité, par exemple, maraîchère est possible et qu'on s'y sent bien et qu'on a envie de poursuivre sur cette voie. Donc, c'est pas un véritable espace test, mais en tout cas, c'est un peu l'idée de venir... voir si on fantasme pas un truc et que en fait finalement le maraîchage, c'est dur, qu'on a envie d'être ailleurs. Parce que je parle d'envie, là, et ça peut paraître bizarre, en fait. La plupart du temps, quand on parle du travail pour les exilés, on se dit qu'est-ce qu'on trouve ? Évidemment qu'en fait, il y a des questions de papier qui font que parfois, on est obligé de se dire, bah oui, là, il y a une promesse d'embauche, c'est déjà exceptionnel d'en obtenir une, et c'est dans un environnement... professionnels qu'on n'aurait pas du tout envie d'investir, genre pas envie d'emballer de la viande dans une usine pendant 7 heures par jour. Mmh. On est clair là-dessus. Je crois que personne n'a envie de faire ça. Mais parfois, c'est ça qui va se profiler. Donc ça, c'est OK, parce qu'en fait, il y a une volonté de faire en sorte que la régularisation se fasse. Mmh. Mais par ailleurs, ça ne nous empêche pas de dire de quoi tu rêves, de quoi on rêve ensemble. Qu'est-ce qu'on a envie de développer comme projet ? Est-ce que si toi, t'as envie de cuisiner, si c'est ça qui te fait rêver, mm. Eh ben alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est un resto qu'on monte ? Voilà. Donc le maraîchage, là, je disais, ouais, c'est un endroit où on se teste, où on voit si ça nous va, et c'est vachement important, en fait. Sinon, en fait, on va reproduire les mêmes problématiques de se retrouver là à faire un boulot qu'on n'a pas envie de faire. Et en fait, c'est juste pour personne, quoi.
Et du coup, enfin, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient soutenir ou rejoindre votre initiative, comment peuvent-ils s'impliquer concrètement ?
Alors, nous, on se réunit à peu près une fois par mois ici, localement. Et du coup, je pense qu'on peut peut-être mettre un petit lien sous le.
Ouais, on mettra ça sur la page de l'émission.
Voilà, et du coup, il y a une petite boucle et on peut. Sinon, aller sur le site de l'asso A4 général, et là, il y a toutes nos coordonnées voilà, pour nous rejoindre. On n'a pas de lieu ici, on n'a pas de local.
Ok.
Et l'idée aussi, c'est peut-être de... Nous, on est quand même beaucoup de paysans et paysannes dans ce groupe. Jusqu'ici, on a fait de l'accueil ponctuel, et notamment dans les vignes, pour de l'ébourgeonnage, pour des vendanges. Et du coup, on se réunissait plutôt à la campagne. Et là, l'idée, c'est aussi qu'on puisse un peu plus se réunir en ville, venir à Angers, pour permettre aux gens de venir nous rencontrer. Donc oui, mais ça peut passer pour l'instant par le site de l'asso, voilà.
Okay. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de t'avoir à nos côtés, Elodie, paysanne engagée pour l'association A4. A4, ce n'est pas qu'une simple structure, c'est un espace d'accueil, de solidarité et de résistance. Alors que les discours de haine et de repli se multiplient, A4 incarne une vision profondément humaine où l'agriculture et l'artisanat deviennent des outils de transformation sociale. Merci à vous pour ce moment d'échange.
Merci.
Pour prolonger cette réflexion sur l'entraide et la solidarité, on vous propose d'écouter Au feu rouge de Grand Corps Malade. On se retrouve juste après pour la suite de Écho des terres.
Heureusement, je n'ai pas d'enfant, se dit Yana très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis, comment elle aurait fait avec un bébé comme pactage ? Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage ? Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur, mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles, de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. Après 3 mois de périple dans toutes sortes d'embarcations, elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle s'est retrouvée seule avec la peur, le ventre vide et des inconnus aussi perdus qu'elle, comme seul guide. Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yana au feu rouge. Dans ces nuits, les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugiée. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme baillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en haillons. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays. Si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yana au feu rouge.
Sur Radio Campus Angers, les bonnes ondes pour tout le monde.
Vous êtes toujours à l'écoute d'Écho des Terres sur Radio Campus Angers, l'émission qui met en lumière les initiatives et les voix du monde rural. Dans cette première partie, nous avons eu le plaisir d'accueillir Élodie de l'association ACAT. Nous avons également Dan Chamani, notre invité culturel qui nous accompagne aujourd'hui.
Alors pour cette deuxième partie de l'émission, on veut se tourner vers l'avenir. Une question pour vous, Élodie et Dan. Si vous deviez imaginer la campagne de demain, à quoi ressemblerait-elle? Quelle valeur devrait être au cœur de ce futur rural? Qui commence?
Moi.
Allez, vas-y, Dan.
Ce que je verrais le plus dans les campagnes,
ouais.
De l'art, par exemple.
Ouais.
Et puis... redis-moi un peu la question.
Si vous deviez imaginer la campagne de demain,
avec...
à quoi ressemblerait-elle?
Bah plus, un mot qui est un peu bizarre, mais plus inclusive. C'est-à-dire que le flux de néo-ruraux qu'il existe en France depuis une quinzaine d'années transforme un peu les campagnes. Et j'aimerais que les campagnes se transforment avec eux et que même reviennent à une campagne comme on a connu, avec des actifs dans les villages, dans les campagnes, des magasins, des boutiques qui se réinstallent, que les gens travaillent sur place, qu'on ait plus cette façon de prendre sa voiture pour aller travailler à 20, à 1h, 1h30 de chez soi. Ça, voilà, on soit tous là chez nous, ensemble, puis, en gros.
Plus de petites boutiques, plus de boulangeries.
Moi, la campagne qui sert de cité dortoir pour une certaine forme de la population, ceux qui vont travailler en ville, et puis les ruraux qui sont sur place, et puis qui travaillent sur place les terres, etc. Et ça, tout ça, ça se mêle bien, quoi.
Super.
Bon, moi, c'est une question difficile parce que je suis en train d'écrire un scénario de BD qui parle vraiment de cette question-là, de ce que pourraient devenir nos campagnes si elles étaient, disons, dans un monde où les choses auraient basculé plutôt dans notre sens, quoi. Donc j'avais pas envie d'écrire une énième dystopie, mais vraiment de mettre l'accent sur qu'est-ce que ça pourrait devenir, sans nier les rapports de conflictualité, le rapport de force que ça impliquerait, mais en imaginant une sécurité sociale de l'alimentation qui fait que, eh ben, on a des paysans et des paysannes nombreuses, qu'on a des terres qui sont collectivisées, et que du coup, voilà, que la terre, l'eau, les semences redeviennent des communs, voilà, que ce soit des lieux d'accueil où on pense vraiment la question du logement, de l'accueil sur nos fermes. Voilà, donc ça pose toutes ces questions-là, et aussi des questions de féminisme. C'est à mon sens vraiment hyper important qu'on se batte pour un féminisme populaire et paysan, et que voilà, que ce soit complètement intégré à nos pratiques rurales.
Mmh, c'est inédit, hein, je crois que c'est la première fois qu'on parle du féminisme pour le futur rural. C'est cool.
Parce que dans les campagnes, dans la paysannerie, il y a quand même des groupes de femmes avec la conf, ça commence un petit peu à changer un petit peu. La dernière émission, on avait Corps à cœur. Enfin, voilà, ça commence à bouger aussi dans les campagnes. On a quand même espoir, non?
Ah ouais, on a super espoir quand au dernier café installation qu'on a fait, on avait une quarantaine de femmes et qu'on a clos les inscriptions parce qu'on ne voyait pas comment ça allait rentrer plus au tintamarre à Chalonne. Du coup, pour animer correctement, on s'est limité à 40 femmes, mais il y avait une vingtaine de porteuses de projets.
Il va falloir des lieux plus grands, en fait.
Mais oui, en fait, il nous faut des terres, voilà, hein, il nous faut des terres.
Carrément.
Pour accompagner cette réflexion, voici une chanson qui invite elle aussi à penser les valeurs pour lesquelles on se bat. On écoute Mourir pour des idées de Georges Brassens et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission.
Mourir pour des idées. L'idée est excellente, moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyre, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Sur Radio Campus Angers, les bonnes ondes pour tout le monde.
On est bien sur Radio Campus Angers dans l'émission Écho des Terres. C'est maintenant l'heure de l'actu des campagnes où l'on partage les événements à ne pas manquer dans le coin. Donc à vos agendas.
L'actu des campagnes, présenté par Matou et Laura sur Radio Campus Angers, les bonnes ondes pour tout le monde.
On vous donne rendez-vous au festival Rêvasson au jardin de l'Anjou à la Pommeraye. Rendez-vous pour l'édition indoor du festival à partir de 18h le samedi 1er février avec Divaphone, No Monkey Kids, Nerlove, The Last Parade et DJ Addict.
Et si vous en voulez encore, 10 km plus loin, soirée Acidaz, volume 1. Pour une soirée au son électronique qui vous plongera dans un univers unique lors de cette label party exclusive portée par SHS Records, rendez-vous le 1er février au tremplin des Mauges à Saint-Quentin pour danser de 21h à 7h du matin.
Une balade photographique spéciale Sénette à Saint-Florent-le-Vieil le mercredi 5 février à partir de 14h avec Sylvie de Embalade Photo. Tout au long de ces petites ruelles menant au panorama unique du Mont Glone, elle vous invite à venir créer des petites Sénèdes à l'aide de petites figurines sur un parcours d'environ 2 km. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur l'événement sur Facebook.
Match d'impro Lima vs la Bocal Company. Deux équipes composées de 5 comédiens et d'un coach se rencontrent sur une patinoire. Le coup d'envoi de chaque improvisation est donné par l'arbitre. Il tire au hasard une fiche où figure le thème qui sera joué, la nature de l'improvisation, la catégorie, la durée et le nombre de joueurs. Après chaque improvisation, les spectateurs votent pour une équipe en brandissant un carton bicolore. Ça se passe le samedi 8 février à 20h au Carré des Arts à Pellouaille-les-Vignes.
Il y a aussi un atelier fresque collective avec Nicolas Lacombe, un auteur-illustrateur qui a développé sa propre technique de dessin au ruban adhésif à l'occasion de sa venue pour le spectacle Awa l'écho du désert à la médiathèque de Garennes-sur-Loire. Nicolas vous propose de le rencontrer autour d'un atelier collectif de 10h à midi. Rendez-vous donc le vendredi 14 février à Saint-Georges-sur-Loire, 5 rue de Savenières.
Ces textes crus et décomplexés vous feront valser sur des airs de musette. La piquante accordéoniste Gertrude fera son one-woman show à l'autre bar ailleurs à Marseille le samedi 15 février à partir de 20h30. Et vous les amis, un peu d'actu ?
Oui, Vous pouvez vous inscrire jusqu'à aujourd'hui, lundi 27, pour le week-end des travailleuses de l'alimentation. On se réunit près de Redon et c'est le troisième week-end. On va parler de comment structurer la filière de l'alimentation dans sa globalité, des paysans paysannes aux gens qui transforment, qui distribuent pour retrouver de la force collectivement voilà, et se donner des droits. Comment ?
Trop chouette.
Et toi, Dan, du coup ?
Une expo en février à l'épicerie fine de Chalonne-sur-Loire.
Ok, voilà. Tout le mois de février.
Tout le mois de février, du premier lundi du mois de février jusqu'au dernier vendredi du mois de février.
Ok. Pour notre fenêtre culturelle, nous avons le plaisir d'accueillir un artiste chalonnais. Quand on passe chez lui pour boire un café, je vous assure que nos yeux n'ont pas le temps de s'ennuyer. Affiches, croquis, dessins, bouquins, tableaux, pinceaux, tout est art et réflexion. Il est graphiste, mais aussi peintre, illustrateur. Multiples sont les supports avec et sur lesquels il s'exprime avec un engagement certain. Je le cite, « Vivre, ne vous laissez pas taire ». Les amis, je vous présente Den Chamani. Bonjour Den, on est ravis que tu sois là.
Bonjour.
Alors, raconte-nous, c'est quoi l'univers à la Den Chamani ?
Bah, c'est un peu comme une petite planète, avec un vaisseau spatial dedans et dessus. Et puis voilà, ça traficote, ça bouine, ça fait des images, voilà.
Ok, et alors du coup, tu utilises plutôt de l'acrylique. Moi, j'ai vu un petit peu ce que tu faisais. Tu as pas mal de, comment dire, de portraits d'hommes aux traits assez marqués, voilà. Qu'est-ce qui t'inspire, en fait
Oui, je suis très inspiré par le portrait.
Ouais.
Et je travaille, oui, peinture acrylique. Et oui, mon sujet, c'est principalement le portrait et les scènes de gens, on va dire. C'est-à-dire des gens qui sont dans une situation, à un endroit, un bar... d'autres endroits, un marché, un resto, enfin, voilà, des scènes de genre.
Ok. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'anime, l'art, l'engagement, enfin, ta philosophie de vie Explique-nous un petit peu tout ça, parce que...
Ma philosophie de vie.
Ouais.
J'en ai une, c'est certain. Après,
Tu peux la dire, hein.
Non, mais j'ai rien qui me vient à l'idée comme ça, sauf que je vis sans contrainte, voilà, je pense qu'un artiste doit se laisser aller, absolument, et faire humilité, vivre de peu, vivre aussi de contraintes, de sacrifices. Mais bon, c'est le métier de l'artiste, parce que c'est une sorte de relais dans l'histoire des choses, et des gens, de la vie, de l'ensemble du vivant, quoi. Je ne sais pas comment dire, mais on est là depuis des...
Ok. Et qu'est-ce que... Donc, moi, j'ai vu aussi, tu dénonces pas mal en images. Là, par exemple, il y a une petite image qui sera sur le podcast que tu m'as fait parvenir. Donc, « Vivre, ne vous laissez pas taire ». Voilà, c'est quoi ta pensée ? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, en fait ?
Ah bah, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que dans mon parcours de graphiste, j'ai travaillé avec un groupe qui s'appelle Grappus à Paris, où, en plus de faire du graphisme, on faisait de la politique. C'était, voilà, on prenait parti pour une politique plutôt de gauche, engagée. Et moi, ça m'est resté tout le long de toutes ces années. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui s'engage. L'art, c'est politique. Donc, si tu fais de l'art, il faut que tu te politises. Il faut que tu prennes parti, il faut que tu développes tes idées, il faut que tu échanges des choses. Tu as le droit de faire de la poésie aussi, de faire des choses légères qui font un peu rêver, mais aussi un engagement, même pour chacun de soi, ça fait du bien, à un moment ou à un autre, de s'engager politiquement. Même juste dans un débat entre copains, soutenir une association, comme ACAT, tout ça, voilà, c'est important pour moi. Les artistes, quand ils sont bloqués dans leur tour d'ivoire, je fais mon truc, je vais d'expo en salon, mais bon, après, dans la tête, j'ai pas grand-chose dans le citron. Voilà. Je vais pas être dur, ça va peut-être choquer, mais... Voilà, moi j'aime bien me battre, j'aime bien
dénoncer.
Ouais. Voilà. Ouais. Donc là, effectivement, j'ai des petites affiches, des petites images en noir et blanc qui sont à l'origine des illustrations de presse qu'on m'a commandées par des journaux, principalement là en ce moment depuis quelques années, je bosse avec la revue Solidaire de chez Sud, du syndicat Sud. Voilà, je donne même à ce moment-là des dessins. J'ai un engagement certain, voilà, politique.
Et ok, donc pour le coup, on peut voir tes œuvres, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, à l'épicerie. Je crois, il me semble que tu fais partie aussi d'une association des artistes autour d'eux, si tu veux nous en parler un petit peu.
Alors le collectif, une association des artistes autour d'eux, est né l'année dernière de la volonté d'un groupe de copains et copines de réaliser pour les 100 ans, les 70 ans du décès de Frida Kahlo, d'organiser une exposition collective sur le thème de Frida Kahlo. Après prospection de lieux, on nous a proposé les anciennes écuries de Trélazé, et de 14 on est passé à 50, et effectivement l'année dernière en octobre-novembre, on a fait une expo aux grandes écuries de Trélazé sur le thème de Frida Kahlo.
Ouais, elle était qui magnifique, cette expo.
Super bien marché en nombre de visiteurs et en présence des artistes qui étaient là. C'était très très chouette. Et donc du coup, bah, on s'est mis en association et on s'est regroupé. On s'entend bien, il y a une bonne équipe. C'est assez divergent dans les genres. Et le projet futur, c'est 2026 pour les 100 ans de la mort de Claude Monet.
Ok.
Et là, on est en recherche d'un lieu, on a un petit dossier qu'on envoie à des endroits comme ci, comme ça. On nous dit oui, on nous dit non. Pour le moment, il n'y a rien de fixe, je ne peux pas donner d'informations plus que ça. Mais ça sera en 2026, autour de Claude Monet.
Ok. Bon, bah, chers auditeurs, si jamais vous avez un lieu à prêter pour les artistes autour d'eux, voilà.
Ouais.
N'hésitez pas à contacter Denis.
Oui. Il y a un site, il y a une page Facebook aussi, une page Facebook des artistes autour d'eux.
Ok.
Trois petits points. Voilà.
Et toi, tu as un site internet où comment on peut te contacter ?
Alors, il y a mon site internet où on peut voir une partie de mon travail, et puis autrement sur Facebook et Instagram. Voilà, Den Chamani, je pense pas que de doublons.
On mettra les petits liens.
On mettra vous mettrez les liens.
Sur la page de l'émission,
Et bon, on peut aller sur mon site aussi, denchamani.fr, tout simplement tout attaché.
Trop bien.
Merci.
Merci beaucoup, Denis.
Merci.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Un grand merci à Elodie pour avoir partagé ton histoire et nous avoir permis de plonger dans l'univers incroyable de l'association ACAT. Merci. N'oublions pas notre fenêtre culturelle d'aujourd'hui. Un grand merci à toi, Den Chamani, l'artiste qui nous a fait voyager dans son univers créatif. Un big up aussi à Sid à la régie qui gère ça comme un chef. Et bien sûr, un énorme merci à ma super co-présentatrice Laura qui m'accompagne dans cette aventure
merci
avec son énergie de dingue. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. C'était un plaisir de vous faire découvrir ce projet. Si vous voulez en savoir plus sur ACAT, foncez sur le site internet qu'on mettra sur la page de l'émission. Et si vous voulez en savoir plus sur Den Chamani, allez le voir à Chalonne, à l'épicerie, mais aussi sur son site internet qu'on mettra en bas de l'émission. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission à travers les champs. Et d'ici là,
topette! Sur Radio Campus Angers, les bonnes ondes pour tout le monde.